Chapitre 4. Le courant de l'amour poursuit sa route. Où va-t-il? Les jours sont comme des années dans l'amour des jeunes gens, lorsqu'aucune barrière, aucun obstacle ne s'élève entre leurs cœurs, quand le soleil luit, que le cours de la vie est tranquille, lorsque leur passion enfin est prospère et avouée. Ionée ne dérobait plus à Glaucus l'attachement qu'elle éprouvait pour lui, et toutes leurs conversations roulaient sur leur tendresse réciproque. Leurs espérances pour l'avenir se reflétaient sur leur bonheur actuel, comme le ciel sur les jardins du printemps. Ils descendaient le fleuve du temps, plein de confiance. Ils arrangeaient en idée leur destinée à venir. Ils se plaisaient à répandre sur le chemin la lumière du jour présent. Peut-être ne s'aimaient-ils que mieux parce que la situation du monde ne permettait pas à Glaucus d'autre but, d'autre désir que l'amour, parce que les distractions qui étaient dans les pays libres détournent l'affection des hommes, n'existaient pas pour l'Athénien, parce que son pays ne lui commandait pas de se mêler à la vie civile, parce que l'ambition n'offrait point chez lui de contrepoids à l'amour. En conséquence, l'amour régnait dans tous leurs projets, dans tous leurs plans. Au milieu de l'âge de fer, il s'imaginait être dans l'âge d'or, destiné uniquement à vivre et à s'aimer. L'observateur impassible, qui ne s'intéresse qu'à des caractères fortement marqués et hautement colorés, trouvera peut-être que ces deux amants sont jetés dans un monde trop commun. Le lecteur croit parfois voir un manque de vigueur dans la peinture de caractères adoucis exprès. Peut-être aussi leur fait-je tort en ne rehaussant pas assez leur individualité. Mais en appuyant si fort sur leur existence brillante et semblable à celle des oiseaux, je subis peut-être involontairement l'influence de la connaissance que j'ai des changements qu'ils ont éprouvés et auxquels ils sont si mal préparés. Cette douceur même et cette gaieté de la vie ne font à mes yeux que constater davantage avec les vicissitudes qui vont survenir. Pour le chêne privé de fleurs et de fruits, et dont le tronc dur et vigoureux est capable de résister à l'ouragan, il y a moins à craindre que pour les rameaux délicats du myrte et pour les grappes riantes de la vigne. Le mois d'août commençait. Leur mariage était fixé au mois suivant et le seuil de Glaucus était déjà entouré de guirlandes. Chaque nuit, à la porte d'Ionée, il répandait de riches libations. Il n'existait plus pour ses gais compagnons. Il ne quittait plus Ionée. Le matin, pendant la chaleur du jour, le temps se passait à faire de la musique. Le soir, ils évitaient les lieux fréquentés pour se promener sur l'eau ou le long des prairies fertiles et couvertes de vignes qui s'étendaient au pied du sinistre Vésuve. La terre ne tremblait plus. Les joyeux Pompéiens oubliaient le terrible avertissement qu'ils avaient reçu du destin. Glaucus, dans la vanité de son paganisme, se figurait en quelque sorte que cette convulsion de la nature avait été une intervention des dieux moins en sa faveur qu'en celle d'Ionée. Il offrit des sacrifices de reconnaissance aux temples consacrés à sa foi. L'autel même d'Isis se couvrit de ses guirlandes votives. Quant au prodige de la statue animée, il rougissait de l'effet qu'elle avait produit sur lui. Il le considérait toujours comme le résultat de la magie humaine, mais cela même lui prouvait qu'il ne fallait pas y voir le courroux d'une déesse. Quant à Arbacès, ils apprirent que cet homme vivait encore. Étendu sur un lit de souffrance, il ne se remettait qu'avec peine du choc qu'il avait renversé. Il laissait les amants en repos, tout en se préparant à la vengeance et en attendant cette heure avec impatience. Soit dans les matinées qu'ils passaient à la maison d'Ionée, soit dans leurs excursions du soir, Nydia les accompagnait ordinairement. C'était leur seule société. Ils ne se doutaient pas des secrètes flammes qui consumaient son cœur. la brusque liberté avec laquelle elles se mêlaient à leurs entretiens, ces manières capricieuses et quelquefois mal intentionnées, trouvaient de l'indulgence dans le souvenir des services qu'elle leur avait rendus et dans leur compassion pour son infirmité. Peut-être même s'intéressaient-ils d'autant plus fortement à elle qu'ils observaient en elle ce caractère contrariant et bizarre, ces singulières alternatives de douceur et de colère, ce mélange d'ignorance et de génie, de délicatesse et de rudesse, de caprice d'enfant et de réserve de femme. Quoiqu'elle refusât d'accepter la liberté, on la laissait constamment libre. Elle allait où elle voulait, on n'imposait de règles ni à ses paroles ni à ses actions. Glaucus Ionnet ressentait pour cette jeune fille, affligée d'une si grande disgrâce et d'une âme si sensible, la même pitié, la même indulgence qu'une mère éprouve pour un enfant malade et gâté, envers lequel, même pour son bien, elle n'ose faire valoir son autorité. Elle profita de cette liberté pour refuser de sortir avec l'esclave qu'on avait attaché à ses pas. Son bâton lui suffisait pour se conduire. Elle allait seule, comme autrefois dans le temps où personne ne la protégeait, à travers les rues les plus populeuses. C'était vraiment merveilleux de voir avec quelle adresse elle fendait la foule, évitant tout danger et traversant son chemin au milieu des détours de la cité. Mais son principal bonheur, c'était toujours de visiter le petit espace qui composait le jardin de Glaucus et de soigner les fleurs qui, du moins, lui rendaient son amour. Quelquefois, elle entrait dans la chambre où il était assis et cherchait à lier conversation avec lui. Mais elle se retirait bientôt, car toute conversation pour Glaucus était ramenée à un seul sujet, Ionnet. Et ce nom, quand il sortait des lèvres de l'Athénien, était une torture pour elle. Elle se reprochait par moments le service qu'elle leur avait rendu. Elle se disait intérieurement, si Ionnet avait succombé, Glaucus ne l'aurait plus aimé. Et alors de sombres et terribles pensées oppressaient sa poitrine. Elle n'avait pas prévu les épreuves qui lui étaient réservées lorsqu'elle s'était montrée si généreuse. Elle n'avait jamais été présente aux entrevues de Glaucus et d'Ionnet. Elle n'avait jamais entendu cette voix qui était si tendre pour elle s'adoucir encore pour une autre. Ce coup qui avait frappé son cœur en apprenant l'amour de Glaucus l'avait d'abord surprise et attristée. Par degrés, sa jalousie s'accrut et prit une forme plus sauvage et plus terrible. Elle participa de la rage et lui souffla des idées de vengeance. De même que vous voyez le vent agiter seulement la verte feuille sur le rameau, tandis que la feuille tombée à terre est flétrie, foulée aux pieds et broyée jusqu'à ce qu'elle ne garde plus de sève ni de vie, est portée par le moindre souffle çà et là, sans résistance et sans trêve. De même, l'amour qui visite les gens heureux n'a que de fraîches brises sur ses ailes. Sa violence n'est qu'un jeu. Mais le cœur qui est détaché du vert rameau de la vie, qui est sans espérance, qui n'a point été dans ses fibres, est déchiré et secoué par le même vent qui ne fait que caresser les autres. Il n'a point de branche où se retenir. Il est poussé de sentier en sentier jusqu'à ce que le vent cesse et le laisse là, pour jamais, perdu dans la fange. L'enfance abandonnée de Nydia avait prématurément endurci son caractère. Peut-être les scènes odieuses de débauche au milieu desquelles elle s'était trouvée avaient dû souiller sa pureté, mûri ses passions. Les orgies de Bourbon n'avaient fait que la dégoûter. Les banquets de l'Égyptien n'avaient fait que la terrifier. Mais les vents qui passent légèrement sur le sol laissent quelquefois les semences derrière eux. comme l'obscurité favorise aussi l'imagination, peut-être la cécité même contribue-t-elle à nourrir par de sombres et délirantes visions l'amour de l'infortuné. La voix de Glaucus avait été la première à résonner harmonieusement à son oreille. La bonté du jeune Athénien avait fait une profonde impression sur elle. Lorsqu'il avait quitté Pompéi dans les premiers temps, elle avait gardé dans son cœur comme un trésor chaque mot qu'elle lui avait entendu prononcer. Et quand on lui disait que cet ami, le patron de la pauvre bouquetière, était l'un des plus gracieux et des plus élégants jeunes hommes de Pompéi, elle mettait un complaisant orgueil à conserver ce souvenir. La tâche même qu'elle s'était imposée de soigner ses fleurs servait à le rappeler à son âme. Elle l'associait avec tout ce qui lui était le plus agréable. Et lorsqu'elle avait refusé de dire quelle idée elle se formait de la beauté d'Ionée, c'était peut-être parce qu'elle rapportait au seul Glaucus tout ce qu'il y avait de doux et de brillant dans la nature. Si quelqu'un de mes lecteurs a jamais aimé à un âge qu'il rougirait presque de se rappeler, à un âge où l'imagination devance la raison, qu'il dise si cet amour, au milieu de ces délicatesses étranges et compliquées, n'était pas plus que toute autre passion venue plus tard, susceptible de jalousie. Je n'en cherche pas ici la cause, je constate seulement que c'est un fait ordinaire. Lorsque Glaucus revint à Pompéi, Nadia avait un an de plus. Cette année, avec ses chagrins, sa solitude, ses épreuves, avait grandement développé son esprit et son cœur. Et lorsque l'Athénien la pressait en jouant contre son sein, croyant qu'elle était encore aussi enfant par l'âme que par l'âge, lorsqu'il baisait ses joues si douces ou jetait les bras autour de sa taille tremblante, Nidia sentait soudainement et comme par révélation que les sentiments qu'elle avait si longtemps et si innocemment nourris n'étaient autre chose que de l'amour. Destinée à être délivrée de la tyrannie par Glaucus, destinée à trouver un abri sous son toit, destinée à respirer le même air pendant un si court espace de temps, et destinée, alors que ses sentiments s'épanouissaient avec le plus de force et de bonheur, à entendre qu'il en aimait une autre, être scellée à cette rivale, devenir sa messagère, son esclave, comprendre tout à coup qu'elle n'était rien dans la vie de celui qu'elle aimait sans être doutée jusqu'alors, n'était-ce pas un sort fatal? Et faut-il s'étonner que, dans son âme sauvage et passionnée, tous ces éléments ne fussent pas d'accord? Que si l'amour l'emportait et régnait par-dessus tout, ce n'était pas l'amour produit par de douces et pures émotions? Parfois, elle craignait que Glaucus ne découvrît son secret. Parfois, elle s'indignait qu'il n'en eût aucun soupçon. C'était un signe de mépris. Comment aurait-il pu croire qu'elle eût eu tant de présomption? Ses sentiments pour Ionée variaient, flottaient d'heure en heure. Elle l'aimait parce qu'il l'aimait. Le même motif la lui faisait haïr. Il y avait des moments où elle eût tué sa maîtresse, qui ignorait ses souffrances, et d'autres où elle aurait donné sa vie pour elle. Ces fortes et timides alternatives de la passion étaient trop vives pour pouvoir se supporter longtemps. Sa santé en souffrit, quoiqu'elle n'en se l'aperçût point. Ses joues pâlirent, ses pas devinrent plus faibles, les larmes vinrent plus fréquemment à ses yeux et sans la soulager. Un matin, où elle se rendait, selon sa coutume, au jardin de l'Athénien, elle rencontra Glaucus sous les colonnes du péristyle avec un marchand de la ville. Il choisissait des bijoux pour sa fiancée. Il avait déjà fait arranger son appartement. Les bijoux qu'il acheta ce jour-là y furent placés. n'étaient pas destinés à parer, à embellir, à encorionner. On peut les voir aujourd'hui parmi les trésors exhumés à Pompéi, dans la chambre des études à Naples. Viens ici, Manidia, mets à terre ce vase. Viens, cette chaîne est pour toi. Viens, je veux la mettre à ton cou. L'y voilà, ne lui va-t-elle pas bien, Servilius? Admirablement, répondit le joaillier, car les joailliers étaient aussi bien élevés, aussi flatteurs que de nos jours. Mais lorsque ces boucles d'oreilles orneront la tête de votre Ionée, c'est alors par Bacchus que vous verrez que mes bijoux peuvent ajouter à la beauté. Ionée, répéta Nydia, qui jusque-là avait marqué sa reconnaissance à Glaucus par son sourire et par sa rougeur. Oui, répliqua l'Athénien en jouant nonchalamment avec les bijoux, je suis en train de choisir ces présents pour Ionée, mais je ne trouve rien qui soit digne d'elle. Comme il achevait de parler, il fut surpris d'un brusque mouvement de Nydia. Elle arracha violemment la chaîne de son cou et la jeta à terre. Qu'est-ce cela, Nydia? Cette bagatelle ne te convient-elle pas? T'ai-je offensé? Vous me traitez toujours comme une esclave et comme un enfant, reprit la Thessalienne, le cœur gros de soupirs qu'elle ne pouvait contenir. Et elle passa rapidement à l'extrémité du jardin. Glaucus n'essaya pas de la suivre ni de la consoler. Il était offensé. Il continua d'examiner les joyaux et de faire des observations sur leur façon, de repousser l'un, d'accepter l'autre. Et enfin, il se laissa persuader par le marchand d'acheter le tout. C'est le plan le plus sage pour un amant, et que chacun ferait bien d'adopter, pourvu toutefois qu'il ait rencontré une Ionée. Lorsqu'il eut complété ses achats et renvoyé le joaillier, il se retira dans sa chambre, s'habilla, monta dans son char et se dirigea vers la maison d'Ionée. Il ne pensa plus à la pauvre fille aveugle ni à son offense. Il avait oublié l'une et l'autre. Il passa la matinée avec la belle Napolitaine, alla ensuite au bain, soupa, si nous pouvons sortir de ce mot pour le repas des Romains à 3 heures, seul et dehors, car Pompéi avait ses restaurateurs. Il revint ensuite, changer de toilette, passa dans le péristyle, mais avec l'esprit absorbé et les yeux distraits d'un homme amoureux, et n'aperçut pas la pauvre fille aveugle, demeurée à la place où il l'avait laissée. Bien qu'il ne l'eût pas vue, elle reconnut à l'instant son pas. Elle avait compté les moments jusqu'à son retour. À peine était-il entré dans sa chambre favorite, qui ouvrait sur le péristyle, et s'était-il assis, rêveur, sur son lit de repos, qu'il sentit sa robe timidement tirée, et qu'il vit Nydia à genoux devant lui, et lui présentant une poignée de fleurs comme gage de paix. Ses yeux, levés sur lui, étaient baignés de larmes. « Je t'ai offensé, » dit-elle en soupirant, « et pour la première fois, je voudrais plutôt mourir que de te causer un instant de chagrin. Vois, j'ai repris ta chaîne, je l'ai mise à mon cou, je ne la quitterai jamais. » C'est un don de toi. Ma chère Nydia, répondit Glaucus en la relevant et en baisant son front, ne pense plus à cela. Mais pourquoi, mon enfant, cette colère soudaine? Je n'ai pas pu en deviner la cause. Ne me la demande pas, dit-elle avec une vive rougeur. Je suis pleine de faiblesse et de caprices. Tu sais bien que je ne suis qu'un enfant, tu le répètes assez souvent. Est-ce qu'un enfant peut dire la raison de toutes ces folies? Mais ma jolie Nydia, tu cesseras bientôt d'être une enfant. Et si tu veux qu'on te traite comme une femme, il faut apprendre à maîtriser ces impétueux mouvements de colère. Oh, ne crois pas que je te gronde, non, c'est pour ton bonheur que je te parle. C'est vrai, dit Nydia. Je dois apprendre à me maîtriser. Je dois cacher, déguiser ce que mon cœur éprouve. C'est la tâche et le devoir d'une femme. Sa vertu n'est-elle pas l'hypocrisie? Ah non, se maîtriser n'est pas tromper, Manidia, reprit l'Athénien. Cette vertu est également nécessaire aux hommes et aux femmes. C'est la vraie toge du sénateur, la marque de la dignité qu'elle recouvre. Se maîtriser, bon, tu as raison. Lorsque je t'écoute, Glaucus, mes plus sauvages pensées se calment et s'adoucissent. Une délicieuse sérénité se répand en moi. Conseille-moi, guide-moi toujours, mon protecteur. Ton cœur affectueux sera ton meilleur guide, ma Nydia, lorsque tu auras appris à gouverner tes sentiments. Oh, cela n'arrivera jamais, soupira Nydia, fondant en larmes. Pourquoi non? Le premier effort est le plus difficile. J'ai fait ce premier effort, répondit Nydia innocemment. Mais vous, mon mentor, trouvez-vous qu'il soit si facile d'être maître de soi-même? Pouvez-vous cacher, pouvez-vous régler votre amour pour Ionée? Ah, l'amour, chère Nydia, ça c'est une autre question, répondit le jeune précepteur. Je le pensais aussi, poursuivit Nydia avec un mélancolique sourire. Glaucus, voulez-vous prendre mes pauvres fleurs? Faites-en ce que vous voudrez. Vous pouvez les donner à Ionée, ajouta-t-elle avec quelque hésitation. Non, Nydia, répondit Glaucus avec bonté, en devinant qu'il y avait un peu de jalousie dans ses paroles, mais s'imaginant que c'était seulement la jalousie d'un enfant orgueilleux et susceptible. Je ne donnerai tes jolies fleurs à personne. Assieds-toi. Forme-en une guirlande. Je la porterai cette nuit. Ce ne sera pas la première que tes doigts délicats ont tressée pour moi. Nydia s'assit avec délice à côté de Glaucus. Elle tira de sa ceinture une pelote de fil diversement colorée, ou plutôt de légers rubans dont on se servait pour fermer les guirlandes, et qu'elle portait constamment sur elle, car c'était son occupation, son état. Elle se mit à l'œuvre avec autant de grâce que de promptitude. Les larmes se séchèrent bien vite sur son visage. Un léger mais heureux sourire entr'ouvrit ses lèvres. Comme un enfant, elle était sensible à la joie de leur présente. Elle venait de se réconcilier avec Glaucus. Il lui avait pardonné, elle était assise à côté de lui. La main de l'Athénien se jouait dans ses cheveux plus fins que la soie. En respirant, il effleurait ses joues. Ionée, la cruelle Ionée était loin. Personne n'occupait, ne distrayait Glaucus. Oui, elle était heureuse et sans souci. C'était un des rares moments dont la vie triste et troublée put conserver le souvenir comme un trésor. De même que le papillon, séduit par un soleil d'hiver, accourt se baigner un instant dans sa lumière soudaine, avant d'être glacé par la brise qui doit le faire périr en quelques heures, elle restait avec joie sous un rayon qui, par contraste avec son ciel accoutumé, la réchauffait un peu. Et l'instinct qui aurait dû l'avertir du peu de durée de son bonheur l'invitait seulement à en jouir. « Tu as les plus beaux cheveux du monde, » dit Glaucus. Ils ont dû faire autrefois le doux orgueil de ta mère. Nidia soupira. On devinait bien qu'elle n'était pas née esclave, mais elle évitait de parler de sa famille. Et, soit que sa naissance fût obscure ou noble, il est certain qu'elle ne la fit connaître à aucun de ses bienfaiteurs dans ces climats lointains. Enfant du chagrin et du mystère, elle vint et disparut, tel qu'un oiseau qui entre dans une chambre et en sort aussitôt. Nous le voyons voler un moment devant nous, mais nous ne savons ni d'où, ni bien, ni où il va. Nidia, surprise et après une courte pause, sans répondre à l'observation de Glaucus, parla ainsi. « Est-ce que je ne mets pas trop de roses dans la guirlande, Glaucus ? On dit que la rose, c'est ta fleur favorite. »«
Et la fleur favorite, ma Nidia, de tous ceux qui ont l'âme ouverte à la poésie ?» C'est la fleur de l'amour, la fleur des festins. C'est aussi la fleur que nous consacrons au silence et à la mort. Elle couronne nos fronts pendant la vie, tant que la vie vaut la peine d'être possédée. On la sème sur nos sépulcres quand nous ne sommes plus.
Oh, je voudrais bien, dit Nidia, au lieu de tresser cette périssable guirlande, dérober à la main des parques la trame de tes jours pour y glisser une rose.
« Charmante Nidia, ton vœu est digne de la voix qui chante des airs si délicieux. C'est l'esprit de la musique qui te l'inspire. Et quelle que soit ma destinée, je te remercie. »«
Quelle que soit ta destinée, mais n'est-elle pas la brillante, la plus belle de toutes ? Mon souhait est inutile, et les parcs te seront aussi propices que je voudrais l'être moi-même. »
Il n'en serait pas ainsi, Nidia, sans l'amour. Tant que la jeunesse dure, oh, je puis oublier par moments ma patrie. Mais quel Athénien parvenu à l'âge mûr peut penser à ce qu'était Athènes et se contenter d'être heureux, lui, lorsqu'elle est déchue, hélas, à jamais.
Et pourquoi jamais ?
Oh, de même que les cendres ne peuvent plus leur se rallumer, que l'amour, une fois qu'il est mort, ne peut revivre, de même la liberté d'un peuple, quand il l'a perdue, ne se retrouve plus. Mais ne traitons pas ces questions-là, qui ne sont pas faites pour toi.
Tu te trompes, elles sont faites pour moi. La Grèce a mes soupirs aussi. Mon berceau a reposé au pied du mont Olympe. Les dieux ont délaissé la montagne, mais on y voit encore leurs traces. Elles se sont conservées dans le cœur de leurs adorateurs, dans la beauté du climat. On m'a dit qu'il était bien beau, et moi-même j'ai senti son air, auprès duquel l'air de ce pays est rude, son soleil, auprès duquel celui-ci est froid. Oh, parle-moi de la Grèce, pauvre insensé que je suis. Je te comprends, il me semble que si j'étais demeuré sur ces rivages, si j'étais resté une fille grecque dont l'heureux destin eût été d'aimer et d'être aimé, j'aurais pu armer mon amant pour un autre marathon ou une nouvelle platée. Oui, la main qui tresse maintenant des roses aurait pu tresser pour toi une couronne d'olivier.
Oh, si un tel jour venait, dit Glaucus, emporté par l'enthousiasme de la Thessalienne, et en se levant à demi. Mais non, off, le soleil s'est couché, et la nuit nous condamne à oublier, à égayer notre oubli. Continue à tresser tes roses. Mais ce fut avec le ton d'une gaieté forcée où perçait la mélancolie que l'Athénien prononça ses dernières paroles. Tombant dans une profonde rêverie, il n'en sortit que quelques minutes après, à la voix de Nidia, qui chantait à voix basse, l'hymne suivant qu'il lui avait appris autrefois. L'apologie du plaisir. Laurier, votre guirlande sainte appartient aux vieux héros morts. Leur tombe dans sa froide enceinte conserve ses pieux trésors. Sa feuille est destinée aux braves et non à ma profane main.
La rose est faite pour l'esclave, elle se flétrira demain. Mais la gloire est descendue près de ceux dont elle est l'appui. Si la liberté s'est perdue, si l'espoir loin de nous a fui, qu'une autre couronne repose sur nos fronts, ô laurier vainqueur. Notre héritage, c'est la rose, héritage des faibles cœurs. Sur la montagne solennelle, tout noble pas s'est arrêté. Les cœurs que la mémoire appelle ne battent plus dans la cité. Les dieux ont oublié la Grèce, ils ont délaissé ses enfants. Mais bannissons toute tristesse, montrons-nous encore triomphants. On entend le long du rivage murmurer de tendres accords. L'oiseau chante sous le feuillage, le ruisseau voit fleurir ses bords. L'hymette donne un miel céleste aux enfants comme à leurs aïeux. Les dieux s'en vont, mais l'amour reste, le premier, le dernier des dieux. Tressez donc, oui, tressez les roses, la beauté nous nourrit toujours. Rien n'a changé le cours des choses, la beauté charme encore nos jours. Rose, parlez-moi, je vous prie, de la Grèce au parfum si doux. Le souffle aimé de ma patrie, du moins, je retrouve en vous. Chapitre 5. Nydia rencontre Julia. Entrevue de la sœur païenne et du frère converti. Notion d'un Athénien sur le christianisme. Quel bonheur pour Ionée! Heureuse, elle s'assied à côté de Glaucus. Elle entend sa voix, elle peut le voir, elle. Ainsi se parlait à elle-même la pauvre aveugle, en marchant seule vers la fin du jour, et en regagnant la maison de sa nouvelle maîtresse, où Glaucus l'avait précédée. Elle fut interrompue soudain dans son monologue par la voix d'une femme. Bouquetière aveugle, où vas-tu? Tu n'as point de corbeille sous le bras? As-tu vendu toutes tes fleurs? La personne qui s'adressait en ces termes à Nydia et qui avait plutôt dans ses traits et dans son maintien l'air hardi d'une dame que la contenance d'une vierge, était Julia, la fille de Diomède. Son voile était à moitié relevé. Elle était accompagnée par Diomède lui-même et par un esclave qui portait une lanterne devant eux. Le marchand et sa fille revenaient de souper chez un de leurs voisins. Ne te rappelles-tu plus ma voix? Continua Julia. Je suis la fille du riche Diomède. Ah, oui, pardonnez-moi, je me souviens du son de votre voix. Mais, noble Julia, je ne vends plus de fleurs. J'ai entendu dire que tu avais été achetée par le bel Athénien Glaucus. Est-ce vrai, jolie esclave? Demanda Julia. Je sers la Napolitaine Ionée, répondit Nydia d'une manière évasive. Ah, il est donc vrai alors. Viens, viens, interrompit Diomède, son manteau posé sur sa bouche. La nuit devient froide, je n'ai pas envie de rester ici pendant que tu babilleras avec cette fille aveugle. Allez, viens, qu'elle nous suive à la maison si tu veux lui parler. Oui, suis-nous, mon enfant, dit Julia du ton d'une femme qui n'est pas accoutumée à rencontrer les refus. J'ai beaucoup de choses à te demander. Viens. Je ne puis ce soir, il est trop tard, répondit Nydia. Il faut que je rentre. Je ne suis pas libre, noble Julia. Quoi, la douce Ionée te gronderait-elle? Oh, je ne doute pas que ce soit une seconde télestriste. Viens donc demain, alors. Mais souviens-toi que j'ai été de tes amis autrefois. Vos souhaits seront remplis, répondit Nydia. Et Diomède, s'impatientant de nouveau et goubrandant sa fille, Julia fut obligée de suivre son père, sans avoir interrogé Nydia sur le sujet qu'elle avait à cœur de traiter avec elle. Maintenant, retournons vers Ionée. L'intervalle écoulé entre la première et la seconde visite de Glaucus ne s'était pas passé d'une façon très gaie pour elle. Elle avait reçu la visite de son frère,
qu'elle n'avait pas revu depuis le soir où il avait aidé à la délivrer de l'Égyptien. Occupé de ses seules pensées, pensées d'une nature sérieuse et exclusive, le jeune prêtre n'avait guère songé à sa sœur. À la vérité, les hommes de cet ordre d'esprit qui aspirent toujours à quelque chose placé au-dessus de la terre ne sont que peu enclins ordinairement aux affections de notre monde. Abba Essidès n'avait donc pas désiré depuis longtemps ces 12 entretiens de l'amitié, ces tendres confidences qu'il recherchait dans sa jeunesse prédionnée et qui sont si naturelles entre des personnes unies par les liens fraternels. Cependant, Ioné n'avait pas cessé de regretter cet éloignement. Elle l'attribuait au devoir de plus en plus sévère, sans doute de la confrérie à laquelle il appartenait. Souvent, au milieu de ses plus brillantes espérances et de son nouvel attachement à son fiancé, souvent elle pensait au front soucieux de son frère, à ses lèvres dont le sourire avait disparu, à son organisme affaibli. Elle soupirait à l'idée que le service des dieux jetait une ombre si noire sur cette terre qu'ils ont créée. Mais le jour où il vint chez elle, il y avait un étrange calme sur ses traits, une expression tranquille et satisfaite dans ses yeux enfoncés qu'elle n'avait pas remarquée depuis plusieurs années. Cette apparente amélioration n'était que momentanée. C'était une fausse sérénité que le moindre vent pouvait troubler. « Mais que les dieux te soient propices, mon frère, » dit-elle en l'embrassant. « Oh, les dieux, ne parle pas si vaguement, peut-être n'y a-t-il qu'un dieu. »« Mon frère, oui, oui, si la foi sublime du Nazaréen est vraie, oui, si Dieu est un monarque, un invisible seul, oui, si ces nombreuses divinités dont les autels remplissent la terre ne sont que de noirs démons qui cherchent à nous détourner de la pure croyance, oui, cela peut être, Ioné. Hélas, pouvons-nous le croire, répondit la Napolitaine. Ou, si nous le croyons, ne serait-ce pas une foi bien mélancolique que celle-là? Quoi, ce monde magnifique ne serait que purement humain? Les montagnes seraient désenchantées de leurs oréades, les eaux de leurs naïades, leurs nymphes. Cette foi si prodigue qui place une divinité en tout lieu, qui consacre les plus humbles fleurs, qui apporte de célestes haleines dans la plus faible brise, peux-tu donc la nier et faire de la terre un rayon de poussière et de fange? Non, Abba Essidès. Ce qu'il y a de plus consolant dans nos cœurs, c'est cette crédulité même qui peuple l'univers des dieux. » Ioné répondait comme une personne enivrée de la poésie de la vieille mythologie pouvait répondre. Nous pouvons juger par cette réponse de l'obstination et des durs efforts que le christianisme eut à surmonter parmi les païens. Leur gracieuse superstition ne se reposait jamais. Il n'y avait pas un acte de leur vie privée qui ne s'y associât. C'était une portion de la vie même, comme les fleurs font partie du tirse. À chaque incident, ils avaient recours à un dieu. Toute coupe de vin était précédée d'une libation. Les guirlandes de leur seuil étaient dédiées à quelque divinité. Leurs ancêtres eux-mêmes, sanctifiés par eux, présidaient comme dieux l'art à leur foyer et à leurs appartements. Si nombreuses étaient leurs croyances que dans leur pays, à cette heure même, l'idolâtrie n'a pas été complètement déracinée. Il n'y a eu de changé que les objets du culte. On fait appel à d'innombrables saints dans les lieux où l'on adorait les divinités, et la foule se presse pour écouter avec respect les oracles de Saint Janvier et de Saint Étienne, au lieu de ceux d'Isis et d'Apollon. Mais pour les premiers chrétiens, ces superstitions étaient moins un objet de mépris que d'horreur. Ils ne croyaient pas, avec la tranquille scepticisme du philosophe païen, que les dieux étaient les inventions des prêtres, ni même avec le vulgaire que, conformément aux vagues lumières de l'histoire, ils avaient été des mortels comme eux.
Ils se figuraient que les divinités païennes étaient de malins esprits. Ils transplantaient dans l'Italie et dans la Grèce les noirs démons de l'Inde et de l'Orient. Et dans Jupiter ou dans Mars, ils voyaient avec effroi les représentants de Moloch et de Satan. Apaïsides n'avait pas encore adopté formellement la foi chrétienne, mais il était sur le point de le faire. Il participait déjà aux doctrines d'Olynthus. Il se figurait que les gracieuses inventions du paganisme étaient les suggestions de l'ennemi du genre humain. L'innocente et naturelle réponse d'Ionée le fit frémir. Il se hâta de répliquer avec véhémence, mais pourtant avec tant de confusion, que sa sœur craignit pour sa raison beaucoup plus qu'elle ne fut effrayée de son emportement. « Oh, mon frère, dit-elle, les laborieux devoirs de ta profession ont troublé ton esprit. Viens à moi, Païsides, mon frère aimé, donne-moi ta main. Laisse-moi essuyer la sueur qui coule de ton front. Ne me gronde pas. Je ne puis te comprendre. Pense seulement qu'Ionée n'a pas voulu t'offenser. » Ionée, dit Apaïsides en l'attirant à lui et en la regardant avec tendresse, puis-je croire que tant de charme et qu'un cœur tendre soient destinés à une éternité de tourments? « Dis, Méliora, que les dieux m'en préservent, » dit Ionée, usant de la formule naturelle à ses contemporains pour détourner quelque funeste présage. Ces mots, et surtout les idées superstitieuses qui s'y rattachaient, blessèrent les oreilles d'Apaïsides. Il se leva, se parla à lui-même, sortit de la chambre et, s'arrêtant tout à coup, se retourna, regarda tendrement Ionée et lui tendit les bras. Ionée courut s'y jeter. Il l'embrassa avec transport et lui dit « Adieu, ma sœur. Lorsque nous nous reverrons, tu ne seras plus rien pour moi. Reçois cet embrassement, tout rempli encore de souvenirs de notre enfance, alors que la foi, l'espérance, les croyances, les habitudes, les intérêts, les objets de ce monde étaient les mêmes pour nous. Non, désormais le lien est rompu. » Il s'éloigna aussitôt qu'il eut prononcé ces étranges paroles. C'était là, en effet, la plus grande et la plus sévère épreuve des premiers chrétiens. Leur conversion les séparait de leurs plus chères relations. Ils ne pouvaient plus s'associer à des êtres dont les actions, les paroles les plus ordinaires étaient pour ainsi dire tout imprégnées d'idolâtrie. Ils frémissaient aux divines promesses de l'amour. L'amour lui-même n'était plus qu'un démon. C'était leur malheur et leur force. S'ils se séparaient ainsi du reste du monde, ils n'en étaient plus que plus unis entre eux. C'étaient des hommes de fer qui travaillaient pour l'œuvre de Dieu. Et les liens qui les unissaient étaient de fer aussi. Glaucus trouva Ionée en pleurs. Il possédait déjà le doux privilège de la consoler. Il obtint d'elle le récit de sa conversation avec son frère. Mais dans le peu de clarté qu'elle y mit et dans le peu de lumière qu'il avait lui-même sur ce sujet, l'un et l'autre ne distinguaient pas bien quelles intentions guidaient la conduite d'Apaïsides. Avez-vous entendu parler, demanda Ionée, de cette nouvelle secte des Nazaréens dont parle mon frère? J'ai souvent entendu parler de ces adeptes, répondit Glaucus, mais je sais peu de choses de leur doctrine, si ce n'est qu'elles passent pour être extraordinairement tristes et sévères. Ils vivent à part entre eux. Ils affectent d'être choqués même de nos guirlandes. Ils paraissent en un mot avoir emprunté leur sombre et lugubre croyance à l'antre de Trophonius. Cependant, continua Glaucus après un instant de silence, ils n'ont pas manqué d'hommes de valeur et de génie, ni de convertis, même parmi les membres de l'aréopage d'Athènes. Je me souviens très bien avoir entendu dire à mon père qu'un hôte étrange était là, il y a déjà longtemps, arrivé à Athènes. Je crois qu'il s'appelait Paul. Mon père se trouva un jour au milieu d'une foule immense qui s'était rassemblée sur une de nos immortelles montagnes pour écouter ce sage de l'Orient. Il ne se fit d'abord pas entendre un seul murmure dans cette multitude. Les plaisanteries, les rumeurs qui accueillent nos orateurs habituels lui furent épargnées. Et quand ce mystérieux visiteur monta sur le sommet qui dominait l'assemblée, sa figure et son maintien inspirèrent le respect, même avant qu'il eût ouvert la bouche. C'était un homme, au dire de mon père, d'une taille moyenne, mais d'une noble et expressive physionomie. Sa robe était ample et de couleur sombre. Le soleil, à son coucher, éclairait obliquement sa figure imposante où régnait un air d'autorité. Ses traits fatigués et fortement marqués indiquaient les vicissitudes de sa vie et la fatigue de ses voyages en divers climats. Mais ses yeux brillaient d'un feu qui n'avait rien de terrestre. Lorsqu'il leva ses bras pour parler, ce fut avec la majesté d'un homme sur qui l'Esprit de Dieu est descendu. « Homme d'Athènes, dit-il, d'après ce que mon père m'a rapporté, je trouve parmi vous un autel avec cette inscription « Ô Dieu inconnu ». Eh bien, vous honorez dans votre ignorance le Dieu même que je sers. Ce Dieu qui vous est inconnu, je viens vous le révéler. » Alors, ce voyageur inspiré déclara que le Créateur de toutes choses, qui avait fixé pour l'homme ses diverses tribus et ses diverses demeures, ce maître de la terre et du ciel, n'habitait pas dans les temples élevés par nos mains, que sa présence, son esprit, était dans l'air que nous respirons, que toute notre vie et notre âme étaient avec lui. « Pensez-vous, s'écria-t-il, que l'invisible ressemble à vos statues d'or et de marbre? Pensez-vous qu'il ait besoin de vos sacrifices, celui-là qui a fait le ciel et la terre ?» Et il parla ensuite des temps à venir, temps redoutables de la fin du monde, d'une résurrection des morts, dont l'assurance avait été donnée à l'homme, dans la résurrection de l'être tout-puissant dont il venait prêcher la religion. Et quand il en vint là, des murmures se firent entendre, et les philosophes qui s'étaient mêlés au peuple exprimèrent leur dédaigneux mépris. On aurait pu voir alors le froncement de sourcils du stoïque et le sourire plein de sarcasme du cynique. L'épicurien, qui ne croit pas même à notre Élysée, lança quelques plaisants jeux de mots et fendit la foule en riant. Mais le cœur du peuple était touché et agité. Ce peuple trembla sans savoir pourquoi, car l'étranger avait la voix et la majesté d'un homme à qui le Dieu inconnu a donné mission de prêcher sa foi. Ionée écouta Glaucus avec une attention ravie, et le ton sérieux et plein d'animation du narrateur indiquait l'impression qu'il avait reçue d'un des assistants de cette assemblée qui, sur la montagne du dieu païen Mars, avait entendu les premières nouvelles de la parole du Christ. Chapitre 6. Le portier, la jeune fille et le gladiateur. La porte de la maison de Diomède était ouverte, et Médon, le vieil esclave, était assis au bas des degrés par lequel on y montait. Cette magnifique demeure du riche marchand de Pompéi se voit encore hors des portes de la ville, au commencement de la rue des Tombeaux. C'était un gai voisinage, en dépit de la mort. Du côté opposé, mais à quelques têtes plus près de la porte, on trouvait une vaste hôtellerie où les personnes attirées par leurs affaires ou leurs plaisirs à Pompéi s'arrêtaient souvent pour se rafraîchir. Devant l'entrée de l'auberge, il y avait des chars, des charrettes, des véhicules de toutes sortes, les uns arrivant, les autres partant. Tout était plein de bruit et de mouvement, comme cela naturel dans cet établissement public. En face de la porte, des fermiers étaient assis sur un banc, autour d'une table circulaire. Ils buvaient le coup du matin en s'entretenant de leurs affaires. Sur un des côtés de la porte même, on avait peint gaiement l'éternelle enseigne de l'échiquier. Près du toit de l'auberge s'étendait une terrasse sur laquelle les femmes des fermiers dont nous venons de parler se tenaient, quelques-unes assises, quelques autres appuyées sur la balustrade, où elles conversaient avec les personnes d'en bas. Dans un profond enfoncement, à peu de distance, s'élevait un endroit couvert où plusieurs voyageurs pauvres se reposaient et secouaient la poussière de leurs habits. De l'autre côté, un espace vide avait servi autrefois de cimetière aux habitants d'une ancienne ville située sur l'emplacement de Pompéi. Il était converti en lustrinum, c'est-à-dire en un lieu où l'on brûlait les morts. Au-dessus, la terrasse d'une charmante maison de plaisance était à moitié cachée sous les arbres. Les tombes elles-mêmes, avec leurs formes variées et gracieuses, les fleurs et les feuillages qui les entouraient n'apportaient dans ce paysage aucune mélancolie. Auprès de la porte de la ville, une espèce de guérite enfermait un factionnaire immobile dont le soleil faisait briller le casque poli non moins que la lance sur laquelle il s'appuyait. La porte était divisée en trois arches, celle du centre pour les voitures et les deux autres pour les piétons, et des deux côtés se dressaient les remparts massifs qui entouraient la cité, remparts construits et réparés à deux époques différentes, selon que la guerre, le temps ou les tremblements de terre étaient arrivés cette vaine protection. À de fréquents intervalles, on voyait des tours carrées dont les sommets rompaient dans leur pittoresque rudesse la ligne régulière des remparts, et contrastait avec les maisons modernes du voisinage aux murs nouvellement blanchis. La route, qui formait plusieurs circuits dans la direction de Pompéi à Herculanum, se glissait à travers des vignes au-dessus desquelles s'élançait le Vésuve majestueux. « C'est une nouvelle, Médon, » dit une jeune fille portant une cruche à la main, et qui s'arrêta à causer un moment devant la porte de Diomède avec l'esclave, avant de se rendre à l'auberge pour y remplir sa cruche et se faire courtiser par les voyageurs. « Les nouvelles, quelles nouvelles ?» dit l'esclave en levant ses yeux qui étaient attachés à la terre. « Ce matin a passé par la porte, sans doute avant que tu fusses bien éveillé, un illustre visiteur. « Ah !» dit l'esclave avec indifférence. « Oui, un présent du noble Pompéianus. »« Un présent, moi je croyais que tu parlais d'un visiteur. »« Les deux à la fois, un visiteur et un présent. »« Apprends-donc, vieillard stupide et lourd, que c'est un jeune tigre de la plus grande beauté destiné au jeu de l'amphithéâtre, entends-tu, Médon ? Oh, quel plaisir ! Je te déclare que je ne dormirai pas une minute jusqu'à ce que je l'ai vu. On dit qu'il rugit admirablement. « Pauvre sotte !» répliqua Médon d'un air triste avec un sourire amer. « Mais ne parle pas de sottise si c'est pas pour toi, vieux sot. Qu'y a-t-il de plus charmant qu'un tigre, surtout si nous pouvons lui trouver quelqu'un à dévorer ?» Nous avons maintenant un lion et un tigre. Pense à cela, Médon. Et faute de deux bons criminels, nous serons peut-être forcés de les voir s'entre-déchirer eux-mêmes. À propos, ton fils est gladiateur. Un beau et vigoureux gaillard, ma foi. Tu pourrais pas le décider à combattre le tigre? Allez, fais-le, tu m'obligeras beaucoup. Mais que dis-je, tu seras le bienfaiteur de la ville entière. « Malheur, malheur !» dit l'esclave avec aigreur. « Songe à ton propre danger avant de désirer la mort de mon pauvre enfant. »« Mon propre danger ?
dit la jeune fille effrayée en regardant hâte autour d'elle. Que ce présage soit détourné, ou que ces paroles retombent sur ta propre tête. Et la jeune fille, en parlant ainsi, toucha un talisman suspendu à son cou. Mon propre danger, répéta-t-elle, mais quel danger peut me menacer? Le tremblement de terre des jours derniers n'est-il pas un avertissement? Dit Médon. N'a-t-il pas une voix? Ne nous crie-t-il pas à tous « Préparez-vous à la mort? La fin de toute chose est prochaine ?» Allons donc, reprit la jeune fille en arrangeant les plis de sa tunique. Tu parles maintenant comme parle dit-on des Nazaréens. Oh, tu es peut-être des leurs. Alors je ne veux pas bavarder avec toi davantage, corbeau de mauvais augure. Tu vas de pis en pis. Va aller, ô Hercule, envoie-nous un homme pour le lion et un autre pour le tigre. C'est un plaisir dont je suis idolâtre, ce beau plaisir de notre amphithéâtre, que j'aime à voir un fier gladiateur se redressant de toute sa hauteur, entrer en scène aussi vaillant qu'Hercule. La vie à peine dans nos veines circule, et la pâleur vient courir notre teint lorsqu'il saisit son rival et l'étreint. C'est un plaisir. Chantant d'une voix claire et argentine, cette chanson qui convenait si bien à une femme, et relevant sa tunique pour éviter la poussière, la jeune fille courut légèrement vers l'hôtellerie. Mon pauvre fils, dit l'esclave à demi-voix, est-ce pour de tels plaisirs que tu dois être immolé? Ô foi du Christ, je t'adorerais en toute sincérité, ne fût-ce qu'à cause de l'horreur que tu aspires pour ces jeux sanglants. La tête du vieillard s'inclina sur son sein d'un air d'abattement. Il demeura quelque temps silencieux et absorbé, mais de temps à autre il essuyait ses larmes avec le coin de sa manche. Son cœur était avec son fils. Il ne vit pas quelqu'un qui s'approchait de la porte en marchant vite et d'un pas hardi et vigoureux. Il ne leva les yeux que lorsque la personne se plaça devant l'endroit où il était assis et d'une voix tendre l'appela de ce doux nom, père. « Mon fils, mon Lydon, est-ce bien toi ?» s'écria le vieillard joyeux. « Oh, tu étais présent à ma pensée. » « J'en suis bien aise, mon père, » dit le gladiateur en touchant avec respect les genoux et la barbe de l'esclave. « Et bientôt, j'espère que je serai toujours présent pour toi, mais non plus en pensée. »« Oui, mon fils, mais pas dans ce monde, » répondit l'esclave tristement. « Mais ne parlez pas ainsi, ô mon père. Soyez joyeux, car je le suis. » J'ai la conviction que je serai vainqueur, et l'argent que j'aurai gagné achètera votre liberté. Ô mon père, il y a peu de jours que j'ai été raillé par un homme que j'aurais eu plaisir à détromper, car il est plus généreux que le reste de ses pareils. Oh, ce n'est pas un Romain, il est d'Athènes. Il m'a reproché l'amour du gain lorsque je lui ai demandé quel serait le prix de la victoire. Hélas, qu'il connaissait peu l'âme de Lydon. Pauvre enfant, dit le vieillard en montant les degrés et en conduisant son fils à la petite chambre qui communiquait avec la pièce d'entrée, le péristyle et non l'atrium de cette maison de campagne. On voit encore cette chambre, c'est la troisième porte à droite en entrant. La première conduit à l'escalier, la seconde n'est qu'une fausse porte où se trouvait une statue de bronze. « Mon fils, reprit Médon lorsqu'ils furent loin de tous les regards, tes motifs sont pieux, généreux, dictés par une profonde affection, mais ton action en elle-même est coupable. Tu veux risquer ton sang pour la liberté de ton père, mais cela mériterait le pardon. Mais le prix de la victoire est le sang d'un autre. Ah, ceci est un péché mortel !»
Rien ne peut le purifier. Ne le fais pas, ne le fais pas. J'aime mieux être esclave toute ma vie que d'acheter ma liberté à ce prix. Paix, mon père, répliqua Lydon avec un peu d'impatience. Vous vous êtes laissé gagner par cette nouvelle croyance dont je vous prie de ne pas me parler. Car les dieux qui m'ont donné la force m'ont refusé l'intelligence, et je ne comprends pas un mot de tout ce que vous m'avez prêché plusieurs fois. Vous avez, vous dis-je dans cette foi nouvelle, puisé des idées singulières du juste et de l'injuste. Pardonnez si je vous offense, mais réfléchissez. Quels sont mes adversaires ? Oh, je voudrais que vous connussiez les misérables avec qui je me suis associé pour l'amour de vous, et vous penseriez que je purifie la terre en la délivrant de l'un d'eux. Ce sont de véritables bêtes dont les lèvres dégouttent de sang, des êtres sauvages dont le courage même est sans règle, féroces, sans cœur, sans le moindre sentiment, aucun lien de la vie ne peut les rattacher. Ils ne connaissent pas la crainte, il est vrai, mais ils ne connaissent pas davantage la reconnaissance, la charité, l'amour. Ils ne sont faits que pour leur profession, pour massacrer sans pitié ou pour mourir sans peur. Les dieux, quels qu'ils soient, peuvent-ils regarder avec colère un combat contre de pareils hommes et pour une cause comme la mienne ? Ô mon père, lorsque les êtres supérieurs contemplent la terre, aucun devoir ne leur paraît plus sacré, plus saint, que le sacrifice offert à un vieux père par la piété d'un fils reconnaissant. Le pauvre vieil esclave, privé lui-même des lumières de la sagesse, et qui n'était converti que depuis peu au christianisme, ne savait plus par quel argument éclairer l'ignorance de son fils, à la fois si profonde et pourtant si belle dans son erreur. Son premier mouvement fut de se jeter dans les bras de son fils, son second de s'arrêter, de se tordre les mains, et dans l'effort qu'il faisait pour la blâmer, sa voix se perdait dans les larmes. « Ah !» reprit Lydon, « si cette divinité, car je crois que vous n'en êtes qu'une, est aussi bienveillante, aussi compatissante que vous le dites, elle sait aussi que votre foi même m'a déterminé d'abord à prendre la résolution que vous blâmez. »«
Comment ? Que dis-tu ? »
s'écria l'esclave. « Mais ne savez-vous pas que, vendu dans mon enfance comme esclave, j'ai été affranchi à Rome par la volonté de mon maître, à qui j'avais eu le bonheur de plaire ? Alors je me hâtais d'accourir à Pompéi pour vous voir. » Je vous trouvais déjà âgé et infirme, sous le joug d'un maître capricieux et opulent. Vous veniez d'adopter la foi nouvelle, et cette adoption vous rendait l'esclavage doublement pénible. Elle vous ôtait le charme solennel de l'habitude, qui quelquefois nous réconcilie avec les situations les plus dures. Ne vous êtes-vous pas plainte à moi d'être condamné à des offices qui ne vous répugniez pas comme esclave, mais que vous trouviez coupable comme nazaréen ? Ne vous êtes-vous pas confessé à moi que votre âme éprouvait un remords et frémissait lorsque vous étiez forcé de déposer même quelques miettes de gâteau devant les lards qui veillent sur l'impluvium ? Que votre esprit ne cessait d'être tourmenté et perpétuellement en lutte avec votre opposition ? Ne m'avez-vous pas dit qu'en répandant les libations sur le seuil et en prononçant le nom de quelque divinité de la Grèce, vous craigniez d'attirer un jour sur vous des peines plus affreuses que le supplice de Tantale, des tourments éternels plus redoutables que ceux de notre Tartare ? Ne m'avez-vous pas dit cela ? Alors je m'étonnais, moi je ne pouvais comprendre. Et par Hercule, je n'y comprends encore rien. Mais j'étais votre fils. Et ma seule tâche était de vous plaindre, de vous soulager. Pouvais-je entendre vos gémissements, être témoin de vos mystérieuses terreurs, de vos constantes angoisses et rester inactif ? Non, par les dieux immortels. Une lumière m'éclaira comme si elle descendait de l'Olympe. Je n'avais pas d'argent, mais j'avais de la force, de la jeunesse. C'était là les dons que vous m'aviez faits. Je pouvais les engager pour vous. Alors je m'informais du prix de votre rançon. Je m'informais du prix que la victoire apportait aux gladiateurs. Et j'appris que je gagnerais de quoi payer deux fois votre liberté. Je devins gladiateur. Je me liai avec ces hommes maudits que je méprise et que j'exècre. Je fis les progrès dans leur métier. Béni soit leur leçon. Elles serviront à rendre mon père libre.
Oh, que ne peux-tu entendre l'intus, dit le vieillard en soupirant,
et de plus en plus touché de la vertu de son fils, mais qui n'en restait pas moins convaincu que l'action qu'il méditait était un crime.
Mais j'entendrai le monde entier, si vous le voulez, répondit le gladiateur avec gaieté, mais lorsque vous ne serez plus esclave.
Sous votre propre toit, mon père, vous aurez le loisir d'endoctriner mon pauvre cerveau tout le jour et toute la nuit, si cela vous plaît. Oh, je vous ai déjà choisi votre demeure. C'est une des 999 boutiques de la vieille Julia Félix, dans une belle exposition en plein soleil. Vous pourrez rester là toute la journée à votre porte et j'achèterai pour vous de l'huile et du vin, mon père. Et alors, s'il plaît à Vénus, ou s'il ne lui plaît pas, puisque vous n'aimez plus son nom, cela est égal à Lydon, vous aurez peut-être une fille aussi pour honorer vos cheveux blancs. Vous entendrez sur vos genoux de petites voix qui vous appelleront grand-père. Ah, nous serons heureux, heureux alors. Le prix achètera tout cela. Mais réjouissez-vous, mon père. Et maintenant, le jour s'avance, le laniste m'attend. Donnez-moi votre bénédiction. En disant ces mots, il avait déjà quitté la chambre de son père. Et tout en se parlant l'un l'autre avec vivacité, mais à demi-voix, ils se retrouvèrent au même lieu où nous les avons pris d'abord. C'était la loge du portier.
« Oh, je te bénis, mon brave enfant, » dit Médon avec chaleur. « Puisse le grand être qui lit dans les cœurs voir la noblesse du tien et te pardonner ton erreur. »
La haute taille du gladiateur passa rapidement dans le sentier. Les yeux de l'esclave en suivirent l'ombre formidable et légère, tant qu'ils purent l'apercevoir. Et retombant encore une fois sur son siège, il les attacha de nouveau à la terre. Muet, immobile, on l'eût cru transformé en pierre. Son cœur, ah, qui pourrait, dans les temps plus heureux où nous vivons, se former une idée du trouble et des combats de son cœur.
Puis-je entrer? Dit une douce voix. Votre maîtresse Julia est-elle à la maison?
L'esclave répondit par un signe machinal à la personne qui demandait à être introduite. Mais elle ne pouvait s'autoriser de ce consentement. Elle répéta sa question timidement, d'une voix plus basse.
« Mais te l'ai-je pas fait comprendre ?» répondit assez rudement l'esclave. « Et entre !»«
Merci !»
dit d'une voix plaintive la nouvelle venue. Et l'esclave, ému de la douceur de sa voix, la regarda et reconnut la bouquetière aveugle. Le chagrin peut sympathiser avec le malheur. Il se leva. Il guida ses pas jusqu'au haut de l'escalier adjacent par lequel on descendait à l'appartement de Julia, et là, appelant une esclave du sexe de l'aveugle, il la lui donna à conduire.